On s'est tous déjà arraché les cheveux face à une administration, un formulaire absurde, un délai incompréhensible. Et on se pose toujours la même question. Mais à quoi sert l'argent de nos impôts? Pendant des décennies, la réponse était simple. Le rôle d'un État, c'était de dépenser un budget. Point. Aujourd'hui, on attend de lui qu'il produise des résultats. Mais comment savoir si une politique publique est réellement efficace?
C'est précisément le cœur du réacteur qu'on va analyser aujourd'hui. On va se plonger dans le défi de l'évaluation des politiques publiques au Maroc en s'appuyant sur un dossier très, très fouillé du magazine Ecobusiness.
Exactement. Et notre mission, c'est de comprendre ce que la source nomme le paradoxe bureaucratique marocain. C'est fascinant. D'un côté, on a des lois, des textes ultra-modernes.
Qui exigent de la performance, de l'efficacité.
Voilà. Et de l'autre, on a une administration qui, visiblement, peine à lâcher ses vieilles habitudes. Alors, mettons les mains dans le cambouis et décortiquons un peu tout ça. Le point de départ, c'est cette image d'Épinal de l'administration marocaine d'autrefois. L'éditorial le décrit très bien. Le bon fonctionnaire, ce n'était pas celui qui changeait la vie des gens, non. C'était celui qui respectait la procédure à la lettre. Le tampon au bon endroit, les crédits dépensés avant le 31 décembre, même pour acheter des trucs inutiles.
C'était une culture de la conformité, pas du tout du résultat. L'important était de pouvoir prouver qu'on avait suivi les règles, peu importe si ces règles menaient à une absurdité sur le terrain. Mais il y a eu une rupture, un véritable séisme institutionnel en 2011. La nouvelle constitution a introduit un principe qui change radicalement la donne, la reddition des comptes.
Reddition des comptes, ça sonne un peu technique. En clair, ça veut dire quoi?
En clair, ça veut dire qu'on est passé d'une logique de moyens à une logique de résultats. Avant, la seule question qu'on posait à un ministre, c'était « Avez-vous bien dépensé les 100 millions qu'on vous a donnés ?» Aujourd'hui, la question est devenue « Qu'avez-vous fait de ces 100 millions ?Quelle valeur avez-vous créée pour la société ?Est-ce que la vie des gens s'est améliorée ?» Le focus n'est plus sur le processus, mais sur l'impact.
Et c'est là qu'on tombe sur l'analogie du magazine que je trouve géniale. Le Maroc se serait doté d'un châssis de Formule 1 sur le plan législatif.
Oui.
Des lois modernes, des standards internationaux. Mais le moteur qui est censé faire avancer tout ça, c'est encore celui d'une bureaucratie poussive. On a une carrosserie de Ferrari avec un moteur 2 CV. C'est ça le fameux paradoxe.
C'est l'image parfaite. Le cadre est là, elle est ambitieuse, mais la machine administrative n'a pas encore été mise à niveau pour suivre.
D'accord. On a donc des lois qui exigent des résultats. Mais concrètement, comment on force un ministère à changer sa manière de penser? On ne peut pas juste leur dire soyez plus efficaces. Quels sont les leviers?
Le levier principal, la clé de voûte de cette réforme, c'est un texte qui s'appelle la loi organique des finances, la LOFS. C'est une véritable révolution silencieuse dans la gestion de l'argent public. Pour faire simple, fini la grosse enveloppe budgétaire globale que chaque ministère recevait et dépensait un peu comme il voulait.
Attendez, ça veut dire que l'argent est fléché. Un ministre ne peut plus, disons, piocher dans le budget route pour financer une campagne de com.
En théorie, c'est beaucoup plus difficile. Les crédits sont maintenant alloués à des programmes très spécifiques, avec des objectifs précis. Par exemple, au ministère de la Santé, il n'y a plus le budget de la santé, mais un programme améliorer la santé maternelle, un autre lutter contre les maladies chroniques, et ce n'est pas tout.
J'imagine que non. Il doit y avoir un mécanisme de contrôle.
Exactement. Chaque ministre doit venir devant le Parlement avec ce qu'on appelle des indicateurs de performance, les fameux KPI, pour chaque programme. Il doit s'engager sur des cibles chiffrées. Avec cet argent, nous allons faire baisser le taux de mortalité infantile de X à Y% en 3 ans. C'est un vrai contrat de performance.
Ah, mais je vois déjà la faille. Si je suis un ministre malin, je ne vais pas choisir un indicateur aussi risqué que la mortalité infantile. Je vais plutôt prendre comme indicateur, je sais pas moi, le nombre de réunions tenues sur le sujet. C'est beaucoup plus facile à attendre.
Vous mettez le doigt sur le principal point faible, très bien analysé dans l'article, c'est la stratégie de contournement. Au lieu de mesurer un impact réel, difficile à obtenir, certains choisissent des indicateurs de moyens déguisés en indicateurs de résultats. Le nombre de rapports produits, c'est un grand classique.
Bien sûr.
C'est facile, ça donne l'illusion de l'action, mais ça ne dit rien sur l'efficacité réelle.
On en revient à la culture de la procédure, mais déguisée avec un vocabulaire moderne. Et qui est l'arbitre de ce nouveau jeu? Qui est là pour dire attention, votre indicateur, c'est de la poudre aux yeux?
L'arbitre, et son rôle a été spectaculairement renforcé, c'est la Cour des comptes. On a cette image de la Cour des comptes comme le gendarme qui vient vérifier si les factures sont en règle. Ce rôle existe toujours, mais il est devenu presque secondaire. La Cour est devenue un stratège.
Un stratège, c'est-à-dire ?
Sa mission a été élargie pour inclure l'évaluation de la performance. Elle ne se demande plus seulement si l'argent a été dépensé légalement, mais s'il a été dépensé intelligemment. Elle va sur le terrain, elle analyse la pertinence des objectifs, l'efficacité des moyens. Elle apporte ce regard extérieur objectif qui est absolument essentiel.
Bon, alors récapitulons. On a des lois modernes, des outils comme la LOLF, un arbitre puissant comme la Cour des comptes. Sur le papier, tout est parfait. Alors pourquoi la machine est grippée ? L'article utilise une expression forte, la peur de l'évaluation.
C'est le cœur du problème. L'obstacle est avant tout culturel et psychologique. La fonction publique marocaine, comme beaucoup d'administrations, a été bâtie sur un modèle où la carrière dépend de l'ancienneté, pas de la performance. Le système est conçu pour sanctionner très durement l'erreur de procédure, mais il ne sanctionne jamais l'inaction.
C'est un point crucial, ça. Un gestionnaire qui ne fait rien mais respecte les règles ne risque absolument rien. Par contre, celui qui innove, qui prend un risque, peut commettre une petite erreur et se le voir reprocher pendant des années.
Exactement. Et ça engendre ce que les sociologues des organisations appellent une aversion au risque systémique. Dans ce contexte, la stratégie la plus sûre pour un fonctionnaire, c'est de ne pas faire de vagues. Le respect de la procédure devient la seule boussole. Du coup, l'évaluation qui juge le résultat est perçue non pas comme un outil pour s'améliorer, mais comme une menace, un tribunal.
C'est un système qui fabrique l'inertie. Et j'imagine que ça a des conséquences directes sur la gestion des ressources humaines. L'article lance un chiffre qui fait réfléchir. La masse salariale publique, c'est 11% du PIB. C'est énorme.
C'est énorme. Et la question, c'est pour quelle efficacité? La Cour des comptes a justement mené une évaluation là-dessus et son rapport est décrit comme accablant. Il révèle un déséquilibre flagrant. Les administrations centrales à Rabat sont en sureffectif. Et pendant ce temps, les services en région, ceux au contact direct des citoyens,
il manque de monde.
Manque cruellement de personnel et surtout de personnel qualifié.
En clair, on a les bonnes personnes, mais pas au bon endroit. C'est un peu comme si une équipe de foot continuait de recruter des gardiens de but alors qu'elle n'a pas d'attaquants. C'est un gaspillage. Dingue.
C'est une allocation de ressources totalement inefficace. Et le plus frustrant, c'est que ce problème est identifié, documenté, rapport après rapport, mais il n'est pas résolu. Et l'article explique pourquoi. L'administration n'a pas les outils modernes de gestion prévisionnelle, des emplois et des compétences, la GPEC. On recrute pour remplacer un départ à la retraite, pas pour répondre à un besoin stratégique de demain.
D'accord, donc le manager le plus motivé est piégé, s'il innove, il risque la sanction, s'il ne fait rien, il est tranquille. Et même s'il voulait bien faire, il n'a pas les bonnes personnes. Mais même si on réglait ces problèmes, il faudrait encore avoir les outils pour mesurer. Et c'est là qu'on tombe sur un autre obstacle majeur, le désert de la data.
C'est le talon d'Achille de toute la réforme. Pour évaluer, il faut des chiffres, des données fiables, précises, à jour, c'est la base. Quel est le temps d'attente aux urgences ? Le taux de décrochage scolaire dans telle province. Sans ces données, on évalue à l'aveugle.
Donc on demande à des ministres de piloter des politiques publiques qui coûtent des milliards, mais sans tableau de bord. Ils sont aux commandes d'un Airbus, mais ils n'ont que la vue par le hublot pour savoir où ils vont.
C'est une très bonne image. La réalité, c'est ce que l'article appelle le « data déficit ». De nombreux ministères n'ont tout simplement pas de système d'information pour collecter ces données du terrain. L'information est éparse, sur des registres papier ou au mieux sur des tableurs Excel non standardisés. Impossible à consolider. Les fameux rapports de performance deviennent alors de simples exercices de style remplis de phrases vagues. On ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas.
Face à tous ces blocages, les cultures, les RH, le manque de données, on a beaucoup entendu parler d'une solution magique, la digitalisation, le fameux e-gov. L'article est, disons, assez sceptique.
On est en plein dans ce que la source nomme le paradoxe de la digitalisation. L'idée, en fait, est simple. Le Maroc a souvent numérisé la complexité sans jamais la simplifier au préalable.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
L'exemple donné est frappant. Vous pouvez aller sur un site web pour télécharger un formulaire, qu'il faut ensuite imprimer, remplir à la main et aller déposer à un guichet.
Avec 5 photocopies certifiées conformes.
Voilà. La valeur ajoutée pour le citoyen est quasi nulle. La règle d'or, c'est simplifier, puis digitaliser. Si vous numérisez une procédure inefficace, vous obtenez simplement une procédure inefficace en ligne.
La même usine à gaz, mais avec une interface web.
Exactement. Et le pire, c'est que ça donne une illusion de modernité. On coche la case « digitalisation ». Mais pour le citoyen, rien n'a changé. La cause principale, c'est le manque d'interopérabilité.
Encore un terme technique. L'interopérabilité, c'est le fait que les systèmes informatiques se parlent entre eux.
C'est la clé. Chaque ministère a développé son propre système dans son coin. Le système des impôts ne parle pas à celui de la conservation foncière, qui ne parle pas à celui de la justice. Résultat, c'est le citoyen qui doit jouer le rôle de clé USB humaine, en allant chercher une attestation chez l'un pour la déposer chez l'autre.
Donc, si on fait le bilan, on a une administration qui peine à changer, des outils de performance qui sont contournés, une digitalisation en trompe-l'œil. Quelles sont les conséquences finales de tout ça ?
L'impact final, et c'est le plus grave, il est humain et démocratique. Quand l'administration fonctionne comme une boîte noire, quand les citoyens subissent des décisions sans en voir les résultats, eh ben la confiance s'érode. L'article cite une étude qui le montre. La confiance des citoyens est liée à deux facteurs, la transparence et la réactivité.
La réactivité, c'est-à-dire la capacité à corriger ses propres erreurs.
Précisément. L'évaluation, ce n'est pas qu'un exercice technique, c'est un outil de dialogue démocratique. C'est le moyen pour l'État de dire « voilà nos objectifs, voilà où on a réussi et voilà où on a échoué, et voici comment on va corriger le tir ». Quand un État admet s'être trompé et montre qu'il rectifie, ça crée de la confiance. L'évaluation est donc au fond un pilier du contrat social.
C'est un tableau assez sombre. Pour sortir de cette impasse, l'article ouvre sur une perspective qui semble presque de la science-fiction, l'intelligence artificielle et le big data.
Oui, et c'est une piste fascinante. La logique, c'est de se dire, si la culture humaine résiste au changement, peut-être que la technologie peut le forcer. Aujourd'hui, on fait des évaluations ex post. C'est comme une autopsie. On analyse l'échec 5 ans après, quand l'argent est déjà dépensé.
Et la technologie permettrait de passer à un diagnostic en temps réel.
Voilà. L'IA et le big data pourraient permettre une évaluation prédictive et continue. Imaginez des algorithmes qui analysent en permanence des millions de données. Ils pourraient détecter un dérapage budgétaire au moment même où il se produit. La Cour des comptes n'aurait plus à faire des autopsies, elle aurait des tableaux de bord qui sonnent l'alarme avant la catastrophe.
La technologie deviendrait le bélier pour forcer la transparence? L'article mentionne même la blockchain.
Oui, pour garantir une traçabilité totale et infalsifiable des fonds publics. Chaque dirham pourrait être suivi de sa source à son utilisation finale. On ne pourrait plus cacher une information. Face à une culture de l'opacité, la technologie pourrait imposer une transparence radicale.
Si on essaie de synthétiser, on a donc un Maroc qui, sur le papier, a tout d'un État moderne. Une constitution exigeante, des lois basées sur le résultat. Mais dans la réalité, cette belle mécanique se heurte au mur d'une culture administrative ancienne, d'un manque de données et de promesses technologiques non tenues.
Absolument. La conclusion de l'article est très claire. Le véritable enjeu n'est plus d'écrire de nouvelles lois. Le châssis de la Formule 1 est là, il est bon. Le défi maintenant, c'est de changer le moteur, refondre le système de management public pour que la performance soit enfin récompensée et que le résultat pour le citoyen prime sur le respect de la procédure.
Et pour terminer, ça me laisse avec une pensée qui prolonge un peu la réflexion. Toute cette analyse se concentre sur la capacité de l'État à s'évaluer lui-même. Mais que se passerait-il si les citoyens, armés des nouvelles technologies, les applications, les réseaux sociaux, commençaient à créer leurs propres outils pour noter et évaluer les services publics en temps réel? Un TripAdvisor de l'administration, en quelque sorte. La pression pour la performance pourrait-elle finalement venir de l'extérieur, forçant de l'intérieur les changements qui tardent tant à se concrétiser?